Avec Anne Schwaller. Bonjour Anne Schwaller.
Bonjour.
Et nous sommes à la Bibliothèque de la Cité. Aujourd'hui, 23 avril, vous venez de donner une très longue, c'était presque une conférence magistrale, et avec quelques questions du public sur Une maison de poupée d'Henrik Ibsen, que vous avez travaillé pendant plus de 6 semaines avec votre troupe et que vous présentez dès le 25 avril au Théâtre de Carouge. C'est une œuvre qui apparemment vous occupe depuis pas mal de temps, vous en êtes proche. Est-ce que c'est une œuvre qui est votre livre de chevet ?
Oh non, mon livre de chevet, c'est Cyrano de Bergerac. Non, par contre, c'est vrai que cette pièce-là, bah, elle fait partie des monuments de la littérature théâtrale. Je l'ai découverte pendant mes études de théâtre, en fait, donc j'avais une 20aine d'années. Et puis à l'époque, je me sentais beaucoup trop jeune dans mon parcours de vie pour en comprendre tous les enjeux. Et c'est vrai que, ben voilà, à 40 ans, qui est quand même un âge charnière, il y a l'avant, il y a l'après, il y a un petit parcours de vie, hein, pas très grand mais un petit, j'avais vraiment très très envie de m'emparer de ce texte.
Pour vous emparer de ce texte, vous avez 6 comédiens autour de vous, dont Véronique Mamou, que vous avez réussi à convaincre. Vous pouvez nous en dire plus ?
Véronique Mermoux, c'est quelqu'un de très très important dans mon parcours théâtral, puisque je passe 7 ans au Théâtre des Os, dont elle est la directrice avec Gisèle Salin à l'époque. Et pendant ces 7 ans, c'est vraiment... on travaille ensemble, elle m'apprend des choses, enfin, je lui dois beaucoup dans mon parcours. Et le rôle d'Anne-Marie dans la pièce d'Ibsen, qui est somme toute un rôle qui a peu d'apparitions, qui ne demande pas une énergie physique débordante. Je rêvais que ça soit elle qui l'endosse. Et quand je le lui ai proposé, elle a d'abord beaucoup, beaucoup réfléchi. Elle m'a rencontrée plusieurs fois, on en a parlé. Parce qu'au moment où je lui propose ce rôle, Véronique a plus ou moins décidé d'arrêter sa carrière théâtrale. Et paf, j'arrive comme ça avec une proposition qui l'a fait se remettre en question, etc. Et elle a accepté. Et elle est absolument magique sur scène, quoi. C'est un bonheur qu'elle ait accepté de venir dans mon projet. C'est vraiment une très, très grande émotion. Ouais.
Dans une sorte de mise en abîme, quand elle est Anne-Marie sur scène par rapport à Nora, elle vous a pris sous son aile quand vous êtes arrivée au Théâtre des Os.
Ah, complètement. Le personnage d'Anne-Marie, c'est la mère par procuration de Nora, c'est la tendresse, c'est quelqu'un de très important pour Nora, comme ça l'a été pour moi, c'est sûr.
Parmi les autres comédiens, on peut mentionner évidemment Marie Fontana, Marie Druc, Jean-Pierre Gosse, qui est toujours aussi facétieux sur scène, et également Yves Yanni, si je ne me trompe pas,
oui.
Julien Georges.
Oui.
Comment vous avez constitué, justement, comment vous avez attribué les personnages à ces comédiens ?
Alors, j'ai réfléchi en génération. Pour moi, ce sont... la distribution est réfléchie en 3 générations. Les jeunes, donc le couple Elmer, qui est, on va dire, au début de quelque chose. Il y a le couple middle age, comme je dis, qui est Krogstad et Christine Lindet. Et il y a les 2 aînés qui sont le docteur Rank et Anne-Marie. Donc ils ne sont pas couple hein, dans l'histoire d'Ibsen, mais enfin disons, ce sont les 2 personnages plus âgés. Et pour moi, c'était important d'avoir comme ça 3 générations sur cette réflexion sur le couple, sur le lien à l'autre, sur l'amour, etc. Pour ne pas tout centrer en fait sur le personnage de Nora.
La première publication d'Une maison de poupée date de 1889.
1879.
Voilà, on va y arriver. Je me mélange les pinceaux. Le regard à la fois de la société, le regard des situations de genre, tout a changé. Vous avez dû faire quelques adaptations, quelques modifications.
Oui, mais alors pas du tout sur les propos liés au couple et à la relation. Ça, j'ai vraiment gardé intact. J'ai modifié certains archaïsmes liés à la médecine. Puisqu'on a un médecin sur scène, 1879, on a quand même fait beaucoup de progrès depuis là. Et certaines choses que je préférais faire jouer aux comédiens plutôt que dire. Donc si vous voulez, on a toutes les scènes, mais il y a des parties qui sont prises en charge par le jeu et non pas par les mots.
Donc, également, une évolution par rapport à la situation de la femme. On ne va pas tout dévoiler, il faut laisser la surprise au public qui viendra à la première. Mais la situation de la femme a beaucoup évolué. Il reste bien sûr des combats à mener. Cependant, dans le contexte d'Ibsen, quand il écrit cette pièce, il y a quand même des résonances avec la situation actuelle.
Oui, et c'est pour ça que moi, je questionne beaucoup l'envie de faire de cette pièce une pièce féministe au sens militant du terme, parce que Nora Elmer, elle passe quand même le premier acte et le deuxième acte à défendre son mari, son foyer, ses enfants, son rôle de mère, à vraiment protéger en fait tout ce qui compose ses acquis en tant que femme d'un point de vue très patriarcal, il faut dire ce qui est. Donc une femme assignée à ses rôles. Et c'est ce qui est bouleversant dans la pièce d'Ibsen, c'est qu'elle se bat corps et âme jusqu'à envisager son suicide pour maintenir cette réalité-là, qui est une réalité fausse, hein, puisqu'à la fin, elle va complètement retourner sa veste en disant « mais en fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris, il faut maintenant que je sois seule et que je réfléchisse, parce que tout ça, c'est du vent, tout ça, c'est une maison de poupées. »
Mais à l'instar de la femme qui, à travers Nora, est une poupée dans sa maison, l'homme, il est aussi un petit peu un pantin. On le manipule aussi par la société, par le regard que pose la société.
Oui, ça pour moi, c'est ma vision du féminisme en fait. On ne va pas pouvoir le faire par l'exclusion, mais par l'inclusion. Je crois qu'on soit homme ou femme, on a tous un grand parcours à traverser parce qu'on vient de décennies et de siècles qui nous ont sclérosés dans des enjeux qui ne sont pas les nôtres, en fait.
Des enjeux et des carcans millénaires, ouais, qu'il faut briser. Ouais. Alors, à son époque, Henrik Ibsen, il ose être précurseur, briser, mmh, en proposant une vision différente. Et du coup, ses contemporains le fustigent.
Oui, mais plus que ça, la pièce est censurée. Et c'est marrant parce qu'on accepte que Nora quitte son mari, son foyer, sa situation, son argent, sa maison. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'elle quitte ses enfants. Et la pièce a été jouée en Allemagne après l'avoir été en Norvège. Et Ibsen a dû réécrire la fin. Parce que la comédienne qui interprétait le rôle de Nora, et j'imagine le metteur en scène, enfin la production, je ne sais pas si on disait comme ça à l'époque, mais n'ont pas voulu monter la scène finale où Nora quitte, et elle quitte aussi ses enfants. Donc en fait, dans la version allemande, que je n'ai pas lue, hein, mais j'en ai entendu parler, elle reste au nom de ses enfants. Voilà.
Donc apparemment, le fait de remettre en question l'instinct maternel bouleverser la société de l'époque, oui, si je comprends bien ce que vous dites.
Et pas que la société de l'époque. Moi, je m'attends à... En fait, bon, c'est aussi parce que la première n'a pas encore eu lieu et que la question de la réception du public, c'est une vraie préoccupation. J'en ai un peu peur. Enfin, mais même quand je monte une comédie, même quand je monte quelque chose de léger, la réception du public, c'est toujours un sacré enjeu. Mais là, moi, je m'attends à tout. Si j'imagine mon père et ma mère qui viendront à la première, qui sont totalement un couple issu du patriarcat, hein, ils sont nés dans les années 50 et ils n'en ont pas dérogé, déjà si je pense juste à eux deux, je me dis mais mon Dieu, c'est des mondes de réception totalement différents, quoi. Et si on remplit la salle, ça veut dire 450 personnes par soir qui vont avoir chacune leur ressenti. Pour l'instant, il y a deux femmes qui sont venues, la photographe et puis la mère de la costumière, qui sont toutes les deux des femmes de, on va dire, 55-60 ans. Elles étaient toutes les deux complètement bouleversées, mais en positif. Voilà, donc on verra. Mais c'est une pièce qui remue, ça c'est sûr.
Alors, M. Spanner, vous allez aussi nous dire comment vous avez procédé pour remuer le public avec la scénographie. Et vous avez aussi recours à des vidéastes, si je ne me trompe pas. Samuel et Frédéric, Sam et Fred, comme vous dites.
Ouais. Guillaume. Je ne cherche pas à remuer le public. Non. La pièce remuera le public. Moi, j'ai respecté le texte d'Ibsen et... Bref, je pense que c'est la pièce qui remue profondément. Alors, pour parler de la scénographie, ouais, je travaille avec Sam et Fred, qui sont réalisateurs de films d'animation. parce que eux, ils font évoluer la dimension de l'échelle 1-1, comme je dis, qui est très contraignante au théâtre, où on a des décors qui sont construits, des corps de comédiens. Eux, ils arrivent vraiment avec un imaginaire totalement débordant. Et par exemple, sur l'acte 1, on part sur des murs en papier peint qui, grâce à leur travail, se dégradent complètement jusqu'à devenir complètement noirs. Donc on a une espèce de réalité augmentée, mais qui est totalement théâtrale. Moi, je ne veux pas qu'on fasse du cinéma. Le cinéma, c'est le cinéma, le théâtre, c'est le théâtre. Mais qui permet comme ça d'avoir une espèce de sensation de mouvement sur un décor qui, en principe, ne bouge jamais.
Voilà. Et par rapport à la pièce, vous avez choisi de minimiser la présence du son. Au niveau de la musique, vous êtes quand même fille... vous avez d'abord des parents artistes, je ne me trompe pas.
Artiste-peintre.
Voilà, artiste-peintre. Voilà. Et vous avez fait une formation de pianiste au conservatoire. Oui. Pour la musique, aussi très importante dans votre vie.
Oui. Je vais même un petit peu plus loin que la notion de musique. Au théâtre, pour moi, c'est le son et le rythme. Quand arrive la dernière semaine de répétition, je travaille quasiment plus que le rythme. Quand est-ce qu'on parle? Quand est-ce qu'on met un silence? Combien de temps dure le silence? En fait, c'est une partition.
Partition.
Ouais, c'est complètement une partition. D'ailleurs, on dit la partition d'un comédien, d'une comédienne. Et pour ce spectacle-là, j'ai 5 musiques. Un point, c'est tout. Et j'ai un effet sonore qui est une sonnette. Voilà. Donc, une grande économie de moyens, grande et pure, parce que ce texte est tellement puissant qu'il a besoin de rien d'autre que de lui-même, en fait.
Par contre, les musiques que vous avez choisies ont tout leur sens pour mettre en valeur l'instant T où elles sont diffusées sur scène.
En fait, c'est des choix dramaturgiques de musique, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas de la musique d'ambiance, c'est pas de la musique pour faire un son inquiétant. C'est vraiment des voix de femmes et des textes qui sont nécessaires au moment où on les dit.
Par rapport aux comédiens, il y a également quand même la présence de 2 enfants.
Oui, oh là là, ça c'est une grande première, des enfants au plateau. Ils existent vraiment dans le texte d'Ibsen. Moi, j'ai poussé un petit peu plus loin le bouchon en leur rajoutant du texte, puisque chez Ibsen, ils sont muets, en fait, ce que je trouvais dommage. Et ouais, ça c'est tout un travail, c'est assez magique, parce qu'un enfant, est juste sur un plateau, parce qu'il ne se pose pas tellement la question de l'image de lui-même. Donc il est là, il fait son truc, ça les amuse beaucoup, ils ont des très jolis costumes, ils ont une scène où ils ont un nounours, un pyjama, enfin bref. Et les enfants, il faut savoir qu'on ne peut pas les faire travailler 2 soirs de suite, ça c'est la loi sur la protection de l'enfance, raison juridique, légale. Donc en fait, à Carouge, j'ai 7 enfants qui s'alternent 2 par soir. Voilà, donc ça a été tout un travail de répétition, de rencontre avec les parents, d'apprentissage de leurs textes, etc., etc. C'est très joli à faire. C'est très stressant aussi, parce qu'un enfant, ça se contrôle moins qu'un adulte.
Justement, j'allais rebondir sur ce que vous dites, Anne Schwaller. Au cinéma, on dit que le plus difficile pour un cinéaste, ce sont à la fois les animaux et les enfants, parce qu'il y a aussi un côté imprévu. Ouais. Est-ce que pour une metteur en scène, c'est le même cas?
C'est un petit peu moins à la fois parce qu'ils ont des apparitions relativement courtes, dont 2 qui sont encadrées par les comédiens au plateau. Ils ont chacun 3 lignes de texte, donc ce n'est pas non plus des grands rôles, etc. Donc non, ça s'est extrêmement bien passé. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai travaillé à ce qu'ils aient une partition extrêmement précise qui ne laisse pas place à l'improvisation. On ne peut pas demander à un enfant d'improviser. Enfin, j'imagine que oui, mais ça se travaille, quoi. Ouais.
Et par rapport à votre travail, tout à l'heure, lors de votre conversation-présentation, vous essayez de me lire, mais j'écris comme un médecin. Vous disiez que Nora, c'est le premier grand rôle du répertoire classique dans l'histoire du théâtre. Là, vous mettez en scène... Une des personnes présentes vous a demandé si vous auriez voulu l'interpréter, si vous l'avez interprété. Comment vous parle le personnage de Nora par rapport à votre carrière?
Moi, j'ai fait le choix d'arrêter d'être comédienne parce que je me sens beaucoup mieux à la place de metteur en scène, Par contre, je sais que j'aborde le travail avec les comédiens en tant que comédienne, tout en ayant cette place de garante, en fait, de la ligne dramaturgique. Et je ne sais pas si j'aurais aimé jouer le personnage de Nora. Je préfère le raconter et le faire jouer que le jouer moi-même. Je trouve que comme ça, je peux avoir un regard beaucoup plus global sur tous les enjeux que représente ce personnage. Nora, c'est un tournant, hein. Mais c'est un tournant au 19e et c'est un tournant aujourd'hui. Ce qu'elle dit à la scène finale avant de partir, le monde entier devrait entendre ce texte-là, quoi. Alors, bien modestement, on va le faire tourner dans quelques lieux et puis ça sera ces gens-là qui l'entendront. Mais c'est absolument fou, la portée du discours à la fin que Ibsen met dans la bouche de son personnage, c'est absolument magnifique, quoi.
Pour revenir à votre scénographie, vous mentionnez que vous avez travaillé avec un triangle sur le sol.
Un carré.
Un carré, ah ben voilà, j'ai toujours des problèmes en géométrie. Et qui indique donc les changements de décor. Et au départ, vous aviez juste des scotchs pour permettre aux comédiens de prendre leurs repères.
Alors ça, c'est souvent le cas quand on travaille... En fait, on a le plateau sur lequel on va jouer le spectacle devant le public, en général, tout à la fin. Et on travaille en salle de répétition, en studio de répétition, peu importe. Et là, on fait un petit peu avec de briques de broc. On n'a pas tout le décor, on n'a pas tous les éléments. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle des marques au sol. C'est des scotchs qui indiquent la dimension du décor. Mais on fait déjà beaucoup de boulot dans ces circonstances-là.
Et puis, vous avez mentionné que vous avez déjà répété depuis 6 semaines, si je ne m'abuse. Et demain, vous faites une répétition à l'italienne, c'est-à-dire sur les chaises, les comédiens réunis. Et est-ce que ça, c'est un travail que vous faisiez avec Benoît Besson ?
Alors, moi, j'ai rencontré Benoît Besson lors d'un stage. Donc, comme il n'y avait pas l'enjeu d'un spectacle, non. Par contre, Gisèle Salin a été l'assistante de Benoît pendant plusieurs années, sur plusieurs spectacles. Et Gisèle a gardé la tradition de l'italienne. Donc, la filiation, elle est celle-là. Benoît Besson, Gisèle Salin, Hans Faller.
Et les murmures que faisait Benoît Besson, vous murmurez?
Non, Benoît, il travaillait à la dictée. Il fallait reproduire son intonation de voix. Non, non, moi, je ne travaille pas comme ça. Au contraire, je ne montre pas au comédien. Je lui dis, je lui explique, je le laisse chercher. Je lui dis, voilà, à ce moment-là, ça serait bien que tu te lèves. Mais je ne lui montre pas ce que j'aimerais qu'il fasse. Sinon, il n'a plus de place.
Ce sont des conseils plus que des directives?
Plus que des conseils, ce sont des vraies indications de jeu. Parce qu'on peut partir dans tous les sens quand on commence une répétition. Donc très très rapidement, ce sont des consignes précises. Sur des intonations, sur des aigus ou des graves. Mais moi, je les laisse toujours explorer. Et en général, j'interviens quand je les sens complètement paumés. Et là, je reviens, puis c'est un travail par couche. Le premier jour, on ne dit pas grand-chose. Deuxième non plus. C'est au bout de ces quelques semaines qu'il y a toute l'accumulation de ce travail qui fait qu'à un moment donné, les choses existent. Mais ça prend du temps. Le mot répétition veut bien dire ce qu'il veut dire. On répète, on répète, on répète, on répète ad aeternam pendant 6 semaines.
Anne Schwaller, on vous connaît ou on associe votre carrière avec, vous l'avez mentionné, Cyrano de Bergerac. On vous avait vu à Carouge avec Léon, Séléna. Bien sûr, aussi Hamlet. Là, chez Ibsen, il y a plusieurs genres qui se retrouvent. Il y a un peu de tragédie grecque, quand même.
Ouais.
Il y a du thriller politique ou social, de la psychologie. Mmh. Il y a une fresque vraiment de la société de l'époque. Ce mélange vous plaît, vous inspire ?
Oui, et c'est ce qui rend aussi le parcours hallucinant, quoi, parce que on a toutes ces dimensions-là et on finit vraiment en grande tragédie. Mais c'est une tragédie où le personnage principal a le choix de son destin. Et c'est ce qui est très étonnant chez Ibsen, c'est qu'on a vraiment cette sensation de l'inéluctable, ce qui crée aussi la sensation de thriller et de tragédie. Et tout d'un coup, paf, on a la comédienne principale qui endosse un texte hallucinant, qui change tout, qui change la destinée, qui change tout.
Vous disiez tout à l'heure justement que c'est une possibilité de renouveau. Les possibles apparaissent.
Ouais, je montrais jamais une pièce dans laquelle je ne trouve pas un quelconque espoir. Je trouve que que ça ne sert à rien de faire ça. Donc là, oui, il y a l'espoir. Le changement indique qu'un autre possible peut exister.
Et par rapport à cette pièce, vous avez en fait, en tout cas pour la première, vous voulez que tout le monde soit sur scène, vous êtes entouré de 35 personnes.
Ouais, je dis le chiffre un petit peu à la louche, mais 30-35 personnes en tout cas. Je ne pourrais pas toutes énumérer les corps de métier là, mais ça va évidemment du comédien au créateur lumière, au créateur son. Il y a les costumes, il y a les assistants couturiers, il y a le maquilleur, il y a les créateurs son, il y a les régisseurs plateau, il y a l'habilleuse, il y a tout le système administratif de production, etc. Moi, j'ai un assistant à la mise en scène. Enfin, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ouais.
Par rapport à votre parcours, on ne va pas tout mentionner ce que vous avez fait, mais vous avez vraiment une prépondérance à vouloir soutenir l'éveil du public de demain, c'est-à-dire une dimension pédagogique dans ce que vous faites, parce que c'est former aussi les jeunes adultes qui viendront au théâtre.
Ouais. Ça, c'est... j'ai vraiment créé deux pièces dans cette idée-là, mais je pense que le théâtre n'a pas fonction d'être pédagogique. Donc, moi, je m'engage dans la pédagogie avant et après le spectacle et je crée des formes qui s'adressent à des âges bien précis. Par exemple, le Cyrano de Bergerac et le Hamlet dont vous parliez, ce sont des petits formats de 45 minutes à deux comédiens. On raconte toute l'histoire. Là, moi, je jouais dedans tellement c'est extraordinaire à faire et on allait dans les salles de classe. Et suite au spectacle, on avait 45 minutes de médiation avec les élèves. Faire un spectacle pédagogique, c'est encore une autre dimension. Par contre, m'investir, comme je l'ai fait là pour la conférence, ou pour aller dans les classes, ou pour rencontrer les gens, ou ouvrir le dialogue, pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on fait comprendre quels sont nos métiers, l'engagement nécessaire pour les faire, et leur importance dans une société qui va bien et qui se porte bien. Sans culture, on est tous morts. On est sur nos canapés et rien ne se passe. Donc pour moi, faire venir saluer toute cette équipe, par exemple, à la fin, c'est cette démarche-là. Aller jouer dans les salles de classe, c'est cette démarche-là. C'est de dire, ce sont des métiers et les voici. Et nous, notre travail, c'est de véhiculer de l'émotion. Et c'est essentiel.
Et le théâtre, c'est d'autant plus essentiel à l'heure actuelle de le rendre accessible, même aux jeunes générations, vu l'importance qu'ont pris les écrans à l'heure actuelle.
Alors, est-ce que le théâtre peut rivaliser avec les écrans? Je ne sais pas. Par contre, faire en sorte que les jeunes ne pensent pas qu'il n'y ait que des écrans, ça, je pense que c'est important.
Anne Swaller, vous l'avez mentionné, félicitations. Vous allez reprendre la direction dès cet été du Théâtre des Os à Givisiez. Et vous aviez déjà pas un parcours avec ce théâtre, puisque vous étiez accueillie par Gisèle Salin dès 2007. Vous êtes restée 7 ans à travailler. Vous avez exploré toutes les facettes du théâtre. Et là, vous reprenez après les 9 années assumées par Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier. Vous voulez insuffler un souffle à la fois personnel, tout en conservant ce qui est en fait l'âme de ce lieu.
Oui, et une âme que j'ai vécue et dans laquelle, moi, je me suis complètement épanouie en tant que comédienne. Je pense que mon travail est aussi de réfléchir à l'époque post-Covid qu'on est en train de traverser et que je crois que c'est le moment de prendre des risques, en fait. Je crois que c'est le moment de défendre cette culture avec des grands textes, avec des grandes distributions, avec des artistes qui sont là longtemps... C'est ce vers quoi je m'engage, ouais.
En attendant, donc, une maison de poupées d'Ibsen va tourner aussi après Carouge.
Oui, on va aller à Fribourg du 17 au 21 mai. On sera au Théâtre du Jura à Delémont le 23 mai.
Chez Robert
Sandeau, oui. Et on sera au Théâtre du Reflet le 25 mai. Voilà, je dois chercher les chiffres, les dates, mais c'est juste, c'est ça.
Et encore deux questions, Anne Swaller. Vous avez mentionné le Jura, Fribourg, qui vous a vu naître et grandir. Vous êtes partie après étudier à l'Institut des Arts de la Diffusion à Bruxelles, la Manufacture. Vous avez mentionné les Valaisans tout à l'heure, Genève. Il y a à chaque fois une réception, une perception aussi différente selon le lieu où vous vous trouvez. Vous vous adaptez selon les lieux?
Non. Non, on ne s'adapte pas. On est fidèle au travail qui a été fait et on laisse le choix au spectateur d'adhérer ou pas. Voilà.
On ne va pas tout dévoiler, mais comme vous avez quand même mentionné ça, parmi les choses que vous avez présentées à la direction des Théâtres des Os, le Barbier de Séville.
Le Barbier de Séville et Figaro. Voilà. Non, ça, j'en dirai pas plus.
Merci pour votre temps et bon succès.
Merci beaucoup pour vos questions.
Félicitations encore.
Merci.